Vous êtes sur RTL.
Et à 7h43, Yves Calvi, on vous retrouve avec votre invité, le professeur Bruno Dubois.
Bonjour Bruno Dubois.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Nous souhaitions vous recevoir ce matin sur RTL puisque vous venez de publier Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle aux éditions Grasset. Si je vous prends au mot, c'est le nouveau fléau du siècle, cette maladie d'Alzheimer.
Ah oui, probablement, parce que comme vous le savez, c'est une maladie qui est naturellement fréquente et qui est d'autant plus fréquente que les gens sont âgés. Et comme, grâce aux bienfaits de la médecine, on est en train de prolonger l'espérance de vie, on est en train de faire des cohortes de gens qui vont arriver à l'âge où la maladie va être vraiment, vraiment fréquente.
Alors, le gouvernement d'une part et le corps médical de l'autre ont-ils pris la mesure de la gravité et de l'urgence concernant Alzheimer ?
Dans une certaine mesure, oui. Je pense qu'il y a eu une mobilisation des pouvoirs publics au début des années 2005-2007, notamment avec le plan présidentiel, alors que cette maladie était totalement passée en dehors des radars. Et puis là, à partir de ce moment-là, il y a eu une mobilisation assez forte sur le plan médico-social. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la prise en charge de ces patients est assez satisfaisante au niveau de notre pays.
Pardonnez-moi, vous, jeune médecin, quand vous avez choisi votre discipline, Alzheimer, enfin, n'était pas en tout cas dans l'actualité. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'Alzheimer existait ? Est-ce que vous en aviez la préscience ou déjà la connaissance ? Peut-être qu'on n'avait pas encore mis le mot dessus, je ne sais pas.
On avait mis le mot dessus, mais vous avez raison, cette maladie était considérée à ce moment-là plutôt comme celle du grand âge. On parlait plutôt de la démence sénile, comme
oui,
vous le savez.
Oui, c'est ça.
Et la neurologie s'est intéressée à cette maladie à partir de sujets jeunes. Car en neurologie, on voit cette maladie chez les sujets jeunes. Et puis secondairement, on a vu que c'était en gros la même maladie. Il n'y avait pas de frontière, que l'âge n'était pas une frontière entre les deux états.
À l'heure actuelle, ce sont près de 800 000 Français qui sont diagnostiqués Alzheimer. C'est un chiffre en croissance exponentielle, puisque chaque année, on découvre 200 000 nouveaux cas, vous nous le confirmez ?
Oui, enfin, ce sont des estimations. On ne le sait pas de façon précise, mais c'est à peu près, c'est de l'ordre de grandeur, 160 000, semble-t-il, nouveaux cas tous les ans.
Mais on couvre tout le monde ou vous pensez qu'il y en a qui passent entre les mailles du filet ?
Ah, ils passent certainement entre les mailles du filet, puisqu'on considère qu'un patient sur deux est reconnu, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il y a une sorte de minimisation des troubles dans les familles jusqu'à un certain moment, que les patients sont souvent non conscients de leurs difficultés, et puis que les médecins généralistes ne sont pas forcément convaincus de l'intérêt de poser un diagnostic sur une maladie pour laquelle il n'y a pas encore de traitement vraiment efficace.
Que sait-on de l'origine de la maladie aujourd'hui ?
On n'a pas trouvé de cause évidente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'environnement de ces patients d'explications claires. Il n'y a pas non plus de cause génétique évidente, puisque c'est une maladie qui n'est pas héréditaire, mais c'est une maladie qui est naturellement fréquente dans certaines familles, parce que ce sont des familles dans lesquelles on vit longtemps, et donc on arrive à l'âge où la maladie devient fréquente.
Ah, c'est très intéressant. C'est la durée de vie génétiquement, en quelque sorte programmée, qui fait la maladie et non pas le fait qu'on la transmette par ses gènes.
Exactement. Avec une petite précision, c'est qu'il y a quand même probablement des dispositions génétiques chez chacun d'entre nous qui font qu'on va être plus ou moins sensible à des facteurs extérieurs qui vont favoriser le déclenchement de la maladie.
Peut-on agir préventivement contre la maladie d'Alzheimer, professeur Dubois ?
Alors, il y a des études épidémiologiques qui montrent que par un certain nombre d'actions, généralement au milieu de vie, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire lutter contre ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, l'hypertension artérielle, le diabète, etc. On va avoir un impact sur le vieillissement cognitif et sur la démence. Il n'est pas démontré que c'est un impact sur la maladie d'Alzheimer qui est une des démences possibles. C'est-à-dire qu'on va jouer sur probablement des facteurs vasculaires qui vont diminuer la charge vasculaire du cerveau et donc diminuer cette composante vasculaire de la démence, mais pas forcément sur la maladie d'Alzheimer elle-même.
Excusez-moi, mais ce que vous nous dites là, j'ai envie de vous dire, est d'assez bon sens et d'une certaine façon rassurant. C'est-à-dire une bonne hygiène de vie, faire un peu attention à son alimentation, conserver un petit peu d'activité physique et rester en éveil dans tous les sens du terme sur la curiosité de l'existence.
C'est exactement ça. Il faut, lorsqu'on vient à la retraite, il faut continuer à avoir une activité intellectuelle, une interaction sociale, une vie sociale, continuer à faire un peu de sport. Tout ça, c'est bon pour le cerveau et donc ça retarde l'entrée dans une maladie que l'on peut avoir par ailleurs.
Alors, il y a un paradoxe qui est à la fois terrible, c'est qu'une petite fille qui naîtrait aujourd'hui en France, elle aurait probablement une espérance de vie à l'âge de 90 ans.
Exactement.
Ce qui est quand même, j'ai envie de vous dire, la meilleure nouvelle du monde et probablement, a priori, en bonne santé. Sauf qu'avec l'augmentation aujourd'hui des chiffres concernant Alzheimer, elle a 40%, nous dites-vous, de risque d'avoir cette maladie un jour.
Exactement. Alors là, vous avez ça en France, mais mettez ça au niveau mondial. Et c'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a une augmentation de l'espérance de vie. C'est la raison pour laquelle ça va devenir la maladie du siècle.
Est-ce que l'on sait si on a des cas Alzheimer dans des grands pays à forte population, comme la Chine ou l'Inde? Vous comprenez ma question? Parce que parfois, on se demande aussi si nos sociétés, pardonnez-moi, mais même s'il y a de la souffrance sociale en Europe et dans nos pays, si ces pays qui sont moins gâtés que nous, bien entendu, je pense aussi au continent africain, voient déclencher aussi des épidémies d'Alzheimer. Vous parlez avec vos confrères
Alors, c'est statistiquement analysé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît les pays dont la population âgée de plus de 60 ans représente plus de 20%. Oui. Eh bien, c'est l'Amérique, l'Europe, le Japon et l'Australie. Dans 2050, c'est l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire la Russie en plus, c'est-à-dire la Chine en plus, l'Amérique du Sud en plus. Il y a deux continents qui vont malheureusement échapper à cette augmentation de l'espérance de vie, ou tout au moins dans les mêmes proportions, c'est l'Afrique et l'Inde. Mais en dehors de ces deux continents, l'ensemble des pays verra sa population vieillir et donc arriver à ce niveau où la maladie d'Alzheimer devient fréquente.
Donc c'est la bonne nouvelle de la durée de vie qui allonge, exactement, qui amène la mauvaise nouvelle d'une maladie qui est apparue.
Exactement.
Alors, on se pose beaucoup de questions depuis quelques temps avec cette récente découverte qui a été annoncée par les laboratoires américains, en l'occurrence Biogen, d'un médicament qui aurait enfin une capacité à contenir la maladie. Je vous laisse choisir les termes qu'il faut employer pour expliquer ce qu'est cette bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'elle l'est vraiment, bien entendu?
Alors, je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle. Je vous dirai pourquoi après. Mais ce qui se passe avec cette molécule, c'est que cette molécule diminue les lésions dans le cerveau des patients après un an et demi de traitement. Bon, mais ça, on savait que ces médicaments étaient capables de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, associé à cet effet sur les lésions, on observe un effet sur les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a une liaison maintenant très claire et qui est établie entre ce que l'on pensait être les bonnes lésions de la maladie, entre guillemets, et le lien avec les symptômes. À partir du moment où on a maintenant l'effet sur les lésions et les symptômes, ça donne une cohérence à l'ensemble de notre modèle. Donc on va pouvoir, à partir de là, continuer à travailler sur cette relation entre les lésions amyloïdes et les symptômes, en essayant d'améliorer la performance qui a été obtenue avec ce médicament.
Bon, ça veut dire qu'on a quand même un médicament qui permet de quoi ? De stopper l'avancée de la maladie, ou voire éventuellement de réparer des lésions, je me permets d'insister.
Alors, le médicament bloque la cascade biologique de la maladie, oui, et ça a un effet sur les symptômes, c'est-à-dire que comparé à la population de sujets qui n'avaient pas reçu le médicament, oui, on observe chez ceux qui ont reçu le médicament un ralentissement des troubles cognitifs. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas le médicament continuent à s'aggraver, ceux qui ont reçu le médicament s'aggravent moins vite que les autres.
Donc c'est une bonne nouvelle, mais évidemment il va falloir que l'Agence américaine du médicament donne autorisation de mise sur le marché, donc précisons-le tout de suite pour ceux qui nous écoutent, il ne faut pas soulever de faux espoirs. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans le temps. Sur ce que l'on comprend et que l'on sait de ce médicament, est-ce que ça concernera tous les malades d'Alzheimer ou seulement une partie? Alors, comprenez là aussi le sens de ma question.
Et bien sûr, c'est-à-dire que ces médicaments avaient déjà été étudiés et essayés chez des patients plus avancés dans la maladie et il n'y avait pas eu d'effet sur les symptômes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont essayé chez des patients relativement débutants, et je dirais même au stade qu'on appelle prodromal, c'est-à-dire oui, au début de la maladie. Oui. Et là, on a l'effet. Donc ça veut dire que probablement, on a d'autant plus de chances d'avoir un effet que les patients seront pris plus tôt dans leur maladie.
J'avais vu ce chiffre, je voudrais savoir si vous le prenez à votre compte. On peut espérer 40% d'autonomie avec ce médicament.
Enfin, c'est-à-dire qu'on observe un ralentissement ou de la perte d'autonomie de l'ordre de 40%. Mais tout ça, si vous voulez, il va falloir comprendre quelle est ce qu'on appelle la relevance clinique, la valeur clinique de ces résultats. Je pense que ça restera modeste malgré tout pour l'instant, mais c'est une avancée et donc ça nous permet de dérouler la pelote.
On met le doigt sur un problème extraordinaire, c'est que la science continue de travailler. Vous, médecins, vous, chercheurs, vous faites régulièrement des découvertes. Vieillir, ça va coûter très cher. Dans tous les sens du terme.
Oui, bien sûr.
On a les moyens?
Ça, ce sont des décisions et des choix politiques. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, évaluer le coût que représentent ces médicaments, le coût... Il va falloir évaluer, si vous voulez, les économies que l'on va faire avec la problématique de l'institutionnalisation des aidants à domicile, etc. Il y a des enjeux socio-économiques qu'il va falloir évaluer très très précisément.
Vous êtes médecin hospitalier, je voudrais bien comprendre votre réponse. Vous venez de me dire qu'on va avoir des gains d'un côté, voilà. et de l'autre côté, évidemment, on aura des dépenses.
Ben oui, les dépenses liées à ces médicaments, qui sont des médicaments qui sont malheureusement onéreux.
Et ça amène une autre question. Le gouvernement vient donc d'annoncer un plan pour 2020 avec 3 millions d'euros sur la table. Myriam El Khomri a elle aussi remis une série de propositions sur le grand âge. Est-ce que tout cela vous implique, vous médecin, et est-ce que vous trouvez qu'on prend, on va dire, des objectifs et un chemin positif sur cette question du grand âge?
Quand on sait qu'il y a entre 8 et 12 millions d'aidants, d'une façon générale, pour ces maladies chroniques, il est clair que ces dispositions sont favorables et que l'on va petit à petit prendre la mesure de la charge que représentent ces affections et de la nécessité d'accompagner les patients et d'accompagner aussi les aidants. Donc il va falloir trouver de nouveaux métiers, il va falloir valoriser ces nouveaux métiers, il va falloir les rendre attractifs. Donc il y a toute une réflexion au niveau du gouvernement qui est très intéressante.
Tout ne peut pas reposer sur la famille. Je voyais ces chiffres tout à fait étonnants, 30% et 1%. 30% des aidants, donc ceux qui ont accompagné un malade d'Alzheimer, meurent avant le malade dont ils s'occupent. 20% des aidants vivent sous le seuil de la pauvreté. On se dit, mais comment va-t-on aider ces Français demain? C'est une question que vous devez vous poser vous aussi.
C'est la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire qu'il y a tout un accompagnement de ces maladies chroniques. Si vous voulez, on est passé d'une période où il y avait des maladies aiguës qui sont en train d'être maîtrisées, oui. Et maintenant, grâce à la maîtrise de ces maladies aiguës, on est en train de faire des sujets âgés qui arrivent à l'âge où ces maladies, où les maladies deviennent des maladies chroniques. Donc il y a toute une réflexion, si vous voulez, médico-sociale et sanitaire pour voir comment on va prendre en charge cette population de sujets vieillissants.
J'ai une question peut-être plus personnelle parce qu'on a entendu votre implication et votre passion pour votre métier, mais que vous ont appris peut-être soit ces malades d'Alzheimer ou finalement cette espèce de course-poursuite à laquelle vous participez depuis des années en luttant contre ces maladies?
Ce que ça m'a appris, c'est d'abord la grande souffrance de ces patients, l'héroïsme au quotidien des aidants. Je trouve que c'est merveilleux, ces gens qui avaient d'autres projets de vie que de se consacrer à la prise en charge de leur malade. Donc il y a beaucoup de dignité, je trouve, et de discrétion d'ailleurs dans ces démarches-là. Ce sont des gens de grande qualité, je trouve, les aidants. C'est tout à fait remarquable. Et puis ce que ça m'a appris, si vous voulez, c'est qu'on a été, nous, les médecins de cette génération, oui. Les chercheurs de cette génération, on a vécu cette extraordinaire avancée sous les des neurosciences, c'est-à-dire de la connaissance de la chimie du cerveau, l'étude des fonctionnements du cerveau. Ça a été une épopée scientifique absolument extraordinaire. C'est qu'on est rentré dans la problématique du cerveau. À la Salpêtrière, on a la chance d'avoir des ressources considérables et ça a été pour moi une chance merveilleuse.
La solution, traiter le plus tôt possible, nous avez-vous dit, notamment dans cet entretien. Merci beaucoup professeur Bruno Dubois. Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. Votre livre paraît chez Grasset et c'est évidemment un livre typiquement d'actualité. Bonne journée à vous.
Merci à vous.